Bonsoir à tous. L'affaire Benalla peut-elle devenir une affaire d'État? Les parlementaires, en tout cas, haussent le ton et réclament des explications et plus de sanctions contre le collaborateur d'Emmanuel Macron, filmé en train de frapper un manifestant. Mais pour le moment, le gouvernement bafouille et le président esquive. De son côté, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire. L'IGPN, la police des polices, a également été saisie. L'audiovisuel public va devoir se serrer la ceinture. 190 millions d'euros d'économies à l'horizon 2022. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'exécutif dans le cadre d'une grande réforme du secteur. L'essentiel des efforts va être supporté par France Télévisions, qui va devoir également supprimer ses chaînes France O et France 4. C'est un déplacement qui a de quoi surprendre. Régulièrement accusé d'antisémitisme, le Premier ministre hongrois Viktor Orban est arrivé en Israël pour une visite de 2 jours avec son homologue Benjamin Netanyahou. Depuis plusieurs mois, les deux hommes affichent une certaine proximité qui interpelle. Explication à la fin de ce journal. C'est une vidéo dont on ignore sans doute encore toutes les conséquences. Des images filmées lors des manifestations du 1er mai à Paris, publiées par le journal Le Monde, on y voit un homme vêtu d'un casque et d'un brassard de police qui frappe un manifestant à terre. L'auteur des coups n'est pas un gardien de la paix, mais un chargé de mission de l'Élysée, Alexandre Benalla. Depuis hier soir, l'exécutif peine à justifier le maintien en poste de ce proche conseiller d'Emmanuel Macron. Mis à pied pendant 15 jours, Alexandre Benalla a en effet depuis repris ses activités. Et ce n'est pas le seul mise en cause, car sur cette vidéo, on voit un deuxième homme, Vincent Kraz, qui lui aussi a été sanctionné par l'Élysée, Florence Turm.
Oui, et alors que l'attention s'était depuis hier soir focalisée sur Alexandre Benalla, c'est Bruno Roger Petit, le porte-parole de la présidence de la République, qui mentionne ce deuxième homme. Un deuxième homme, Vincent Kraz, qui apparaît également sur la vidéo en jean et veste grise, crâne rasé et tête nue, contrairement à Alexandre Benalla, qui lui, vous l'avez dit, porte un casque. Vincent Kraz, que l'on voit au milieu des CRS en tenue, tiré à l'écart un homme à terre, en criant des mots difficiles à comprendre. On le voit aussi lever la main au-dessus du jeune manifestant, avant qu'Alexandre Benalla n'intervienne à son tour et le frappe à plusieurs reprises. Les deux hommes se connaissent bien. Ensemble, ils avaient créé en 2016 une très éphémère fédération de la sécurité privée, puis travaillé au service de la sécurité de la campagne présidentielle. Et ils auraient demandé l'autorisation d'assister à la manifestation du 1er mai en tant que simples observateurs du déroulement d'une mission de maintien de l'ordre. Tous deux sont des réservistes de la gendarmerie à divers titres et ils n'avaient aucune légitimité pour intervenir, a déclaré Gérard Collomb. Le ministre de l'Intérieur condamne sans ambiguïté un acte inadmissible. Il a également saisi pour l'IGPN la police des polices pour vérifier les conditions de mise en œuvre des règles en vigueur pour l'accompagnement des observateurs. De son côté, le parquet de Paris a ouvert ce matin une enquête préliminaire pour violence et usurpation de fonctions. L'affaire est désormais aux mains de la justice et c'est très bien ainsi, estime le Premier ministre Édouard Philippe. Elle aurait en fait dû l'être beaucoup plus tôt en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, les autorités concernées étaient tenues d'informer le procureur de la République dès la connaissance des faits, il y a plus de 2 mois et demi.
Florence Turm pour France Culture. Et donc malgré le scandale, Emmanuel Macron et ses proches font bloc et esquivent. En déplacement en Dordogne, le président de la République lui-même s'est refusé à commenter directement la mise en cause de son collaborateur. Et à l'Assemblée nationale, les élus de la majorité se taisent. L'opposition, elle, en revanche, exprime son indignation. Le chef de file des députés de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, propose même une motion de censure contre le gouvernement. C'est clair, à gauche comme à droite, les critiques fusent et la colère monte. Ilan Malka, vous vous êtes rendu aujourd'hui au Palais Bourbon.
Dans les couloirs de l'Assemblée, nous avons interrogé plusieurs députés de La République En Marche, mais ils n'ont pas souhaité répondre. C'est donc l'opposition qui parle d'une même voix dans cette affaire en demandant déjà au chef de l'État de sortir de son silence. À droite, par exemple, Christian Jacob est chef de file des députés LR.
Le président de la République, le directeur de cabinet, enfin toute la hiérarchie de l'Élysée, visiblement était au courant et il y a une faute très lourde de ne pas dénoncer. On est sur quelque chose qui peut être très grave. Le président doit faire la lumière et dans les plus brefs délais. Et lui seul.
Au centre, le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, attend des réponses à des questions politiques. Il en dénombre 3 très importantes concernant cette affaire Benalla.
Pourquoi est-ce qu'il a été envoyé dans une manifestation? Quand on est chef adjoint du cabinet du président de la République, c'est certainement pas pour aller contrôler les manifestations, ni même faire son expérience. Deuxièmement, est-ce que cette personne a été dénoncée comme elle aurait dû être dénoncée? Et troisièmement, pourquoi cette sanction est une sanction aussi légère?
Et pour répondre à ces 3 questions, le groupe La France Insoumise, à gauche, réclame une commission d'enquête parlementaire. Daniel Obono est député FI.
Il y a une responsabilité politique et j'attends, moi en tant que députée, que le pouvoir législatif fasse son travail, parce que c'est notre travail de contrôler l'action de l'exécutif. Moi en tant que parlementaire, j'attends de la majorité qui prenne leurs responsabilités et mette en place cette commission d'enquête.
Et côté France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon avait demandé également un peu plus tôt à ce qu'un juge d'instruction soit saisi dans cette affaire. À l'heure actuelle, le président de la République ne s'est pas encore exprimé.
Ilan Malka pour France Culture. Et justement, la commission des lois de l'Assemblée nationale a décidé ce soir de se constituer en commission d'enquête pour pouvoir notamment procéder à des auditions. Et du côté du Sénat, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, sera auditionné en début de semaine prochaine. Tariq Ramadan va-t-il pouvoir sortir de prison ? Son avocat a déposé ce soir une nouvelle demande de remise en liberté. Mis en examen pour deux viols, l'islamologue suisse est incarcéré depuis le mois de février. Mais de récentes investigations ont mis à mal la version de la première plaignante, Enda Ayari. Des nouveaux témoignages rapportent que cette ancienne salafiste devenue militante féministe était au mariage de son demi-frère le jour où elle affirme pourtant avoir été violée par Tariq Ramadan. Une cure d'austérité sévère, voilà ce qui attend l'audiovisuel public. Matignon et le ministère de la Culture ont rendu leur arbitrage budgétaire cet après-midi. Au total, 190 millions d'euros d'économies d'ici 2022. L'INA, TV5 Monde, Radio France ou encore France Média Monde, tout le monde est concerné. Mais c'est bien France Télévisions qui est la plus touchée avec 160 millions d'euros de coupes dans son budget. Deux chaînes de télé, France O et France 4, vont également disparaître du réseau hertzien. Un véritable coup de massue pour les salariés de l'entreprise, explique Claude Guénaud, journaliste à France 3 et délégué général adjoint du syndicat SNJ-CGT.
C'est une punition. Depuis un an, on l'a bien noté, il y a le président de la République et le gouvernement qui veulent régler des comptes avec France Télévisions. Il y a eu déjà l'épisode La Honte de la République en parlant de France Télévisions. Donc là, le gouvernement, le président de la République s'attaque à la télévision publique, à l'audiovisuel public par l'argent, par les moyens, en taillant dans les budgets, en coupant les vivres. Déjà depuis un an, toutes les rédactions souffrent. On a réduit les moyens pour faire des reportages, on remplace plus les départs en retraite. Au siège, par exemple, on a perdu 155 emplois en un an. Et en même temps, la charge de travail ne cesse d'augmenter. Il faut non seulement faire les journaux télévisés, mais également alimenter Internet, les plateformes numériques, développer les programmes régionaux, l'information. Ça va devenir impossible. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire plus avec beaucoup moins de moyens. On craint pour la qualité du service public, mais également pour les salariés. Parce que les premiers à faire les frais de ces économies sont les salariés précaires, les intérimaires, les intermittents, les CDD. On dirige un grand nombre de salariés vers Pôle emploi, vers la retraite ou vers Pôle emploi.
Claude Guénaud, journaliste à France 3 et délégué général adjoint du SNJ-CGT. Il répondait à Cécile de Kervas-Doué. Carles Puigdemont ne peut rester en Allemagne, en tout cas pour le moment. La justice espagnole retire en effet les mandats d'arrêt visant l'ancien président catalan. Ce retrait survient en fait après une décision prise la semaine dernière par la justice allemande. Cette dernière a annoncé qu'elle acceptait bien de remettre Puigdemont au juge espagnol, mais à une condition, qu'il ne soit pas jugé pour sédition et rébellion. Refus catégorique de Madrid, qui voudrait au contraire poursuivre le leader indépendantiste pour avoir participé à la tentative de sécession de la Catalogne. En Israël, des retrouvailles très chaleureuses entre le Premier ministre hongrois et son homologue israélien Benjamin Netanyahou. Viktor Orban est arrivé aujourd'hui à Jérusalem pour une visite officielle de deux jours. En dépit des soupçons d'antisémitisme qui pèsent régulièrement sur le Premier ministre hongrois, les deux dirigeants ont affiché leur entente malgré les critiques que soulève ce rapprochement. À Jérusalem, Marie Semelin.
En Israël, beaucoup grincent des dents, mais rien n'y fait. Il n'y a pas l'ombre d'un désaccord entre Benjamin Netanyahou et Viktor Orban, qui n'a prévu aucune visite dans les territoires palestiniens. Pour sa première déclaration, le Premier ministre hongrois s'est empressé d'affirmer qu'il prenait la tolérance zéro contre l'antisémitisme, une manière de rassurer après notamment sa violente campagne contre le milliardaire juif George Soros, qui souhaite selon lui inonder la Hongrie de réfugiés. Cette cabale au relent antisémite avait inquiété la communauté juive de Hongrie, que Benjamin Netanyahou était venu apaiser. Le Premier ministre israélien soigne ses alliés européens qu'il a trouvés dans le groupe dit de Visegrad, en Hongrie donc, mais aussi en Pologne, en Slovaquie, en République tchèque, où le nationalisme du gouvernement israélien est bien mieux compris qu'ailleurs. Et le bénéfice est évident, notamment aux Nations Unies, où le groupe soutient résolument une politique pro-israélienne, bloquant ou s'abstenant lors de votes condamnant la colonisation des territoires palestiniens ou l'usage de la force dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou tente tente, lui, de faire pression sur les États-Unis pour faire sortir la Hongrie de son isolement. Il a salué deux pays qui comprennent la menace de l'islamisme radical. Quant à Viktor Orban, il s'est réjoui de rencontrer un patriote comme lui.
Le temps, demain, et les orages font leur retour du sud-ouest au nord-est du pays avec des précipitations dès le matin de la Normandie à la région parisienne.